Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Michel, bonjour, soyez le bienvenu.
Merci.
Ce matin, vous vous penchez sur le cas des hypochondriaques. Pour eux, la pandémie qui sévit et la période de confinement qui nous est imposée n'arrange vraiment rien.
Ah oui, vous savez ce qu'on dit habituellement des hypochondriaques, hein, ce sont des personnes qui ont tendance à se sentir mal lorsque tout va bien et qui savent qu'elles iront encore plus mal quand tout ira mieux. Ça, c'est la définition un peu provoque, je le confesse, par temps calme, comme disent les marins. Donc, autant vous dire que la période actuelle ne fait qu'ajouter à l'anxiété chronique des hypochondriaques. La moindre alerte, le moindre début de symptômes est pour eux la preuve irréfutable d'une contamination par le coronavirus. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas le leur reprocher parce que leur réaction est pertinente, leur raisonnement totalement cohérent.
Que voulez-vous dire exactement,
tiens ? Eh bien, vous allez voir, on est en présence d'un effet domino diabolique. Alors, vous savez que quand on est anxieux, on peut avoir des bouffées d'angoisse. Mm-hmm. Bon, quand on a des bouffées d'angoisse, ça peut déboucher sur des difficultés respiratoires, hein, jusqu'à une sensation d'étouffement. Et là, paf, comme par hasard, il se trouve que les problèmes respiratoires font partie des symptômes du Covid-19. Mmh. Donc, vous vous retrouvez avec des patients qui, en toute bonne foi, se disent qu'ils sont contaminés par le virus, alors que la cause de leur difficulté à bien respirer est tout autre. On peut difficilement leur en vouloir.
Comment les hypochondriaques peuvent-ils se sortir de ce piège, qui est en effet, là je l'ai bien compris, diabolique ?
Alors il y a deux pistes. La première, ça consiste à tenir un journal intime.
Ah, oui.
Mais un journal dans lequel on note ce qui va bien. Hein, comme par exemple la disparition d'un symptôme, ou ces petits moments fugaces où l'on s'est senti serein. L'écrire, donner consistance à de bonnes nouvelles, et c'est utile quand on est hypochondriaque et que l'on a par définition tendance à se focaliser exclusivement sur ce qui va mal.
La seconde piste ?
Eh bien, la seconde piste, c'est apprendre à contrôler sa respiration. Et pour ce faire, il y a une application dont le nom dit l'intérêt, hein, ça s'appelle RespiRelax. Vous allez sur Internet, vous tapez RespiRelax dans la barre de recherche, c'est bien sûr gratuit, vous allez tomber sur un petit film très monotone, mais très utile. On y voit une courbe sinusoïdale, c'est-à-dire que ça monte et ça descend hein, de manière très régulière, sur laquelle se déplace une bulle.
Oh là.
Il suffit de suivre la bulle du regard. Quand elle monte, vous inspirez. Quand elle descend, vous expirez. Et là, ce qui est stupéfiant, c'est qu'on s'aperçoit que, hypochondriaque ou pas, on ne sait pas respirer. On respire trop vite. Cette application est un trésor. Elle nous réapprend à respirer et à retrouver un peu de cohérence cardiaque. Vous verrez que ça demande un petit effort physique, hein, trois fois rien, mais que ça suffit à apaiser de manière assez spectaculaire.
J'imagine qu'il faut faire cet exercice tous les jours, mais pendant combien de temps ?
Alors, on n'est pas obligé de brusquer les choses. Le premier jour, vous faites ça pendant une minute. Hein, 60 secondes, c'est pas grand-chose. Le deuxième jour, vous le faites pendant deux minutes. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à le faire pendant cinq minutes.
Oula.
Le cinquième jour, et à vous imposer ensuite cet exercice de cinq minutes les jours suivants. Alors, cinq minutes, ça peut paraître un peu long quand on ne fait que se concentrer sur sa respiration en regardant une bulle monter et descendre sur un écran. Mais dites-vous que cinq minutes dans une journée qui en compte 1440, hein, j'ai fait le calcul, ça n'est rien, surtout au regard du bénéfice que vous pouvez en tirer. Donc, je le répète, la cohérence cardiaque est une solution. Elle permet de régulariser toutes les fonctions de l'organisme. Et je peux vous dire que si tout le monde s'y livrait, le monde irait beaucoup mieux, pandémie ou pas.
Merci Michel et à demain.
À demain.
7h, 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
8h13, c'est un sondage qui a attiré notre attention. 58% des Français veulent aller chez le coiffeur la première semaine de déconfinement, dont 68% les hommes, 50% les femmes. Nous en parlerons à partir de 9h avec notre invitée Nathalie Ross. Elle est directrice générale monde des produits professionnels de la marque L'Oréal. Elle travaille activement avec le gouvernement sur le protocole de réouverture des salons en France à partir du 11 mai. Rendez-vous donc à 9h, mais tout de suite, nous partons en région. 18 mois après le drame de la rue d'Aubagne à Marseille qui avait causé, je vous le rappelle, le 5 novembre 2018, la mort de 8 personnes dans l'effondrement de leur immeuble, le confinement menace de transformer la crise du mal-logement en véritable catastrophe sanitaire. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous.
Pour les milliers de Marseillais confinés dans ces logements indignes, la situation est visiblement de plus en plus critique.
Oui, et ce sont 100 000 habitants qui sont ici concernés par ce mal-logement et le confinement exacerbe les difficultés qu'ils rencontrent. Kevin Vaché est membre du collectif du 5 novembre qui vient en aide aux délogés. Il nous cite l'exemple de Michel, victime en réalité d'une double peine. La peur d'être infecté par le coronavirus à l'extérieur et un confinement intérieur difficile dans un petit appartement où l'humidité grignote les murs et où la structure même de l'immeuble est fragile.
C'est Michel, on va l'appeler, qui est dans un appartement qui doit faire environ 15 mètres carrés. carrés qui est infesté de cafards et tout l'immeuble est infesté de cafards, dont beaucoup de pièces ont subi des dégâts des eaux et ont des infiltrations d'eau qui ont vermoulu les poutres. Et donc cet appartement est extrêmement dangereux pour sa santé, à tel point que lorsqu'il nous avait contacté, il sortait de l'hôpital psychiatrique où il avait passé une semaine et son médecin attestait clairement que sa situation psychologique était liée à l'insalubrité de son logement. Donc aujourd'hui, c'est double peine pour ce genre de personnes.
Alors Étienne, précisons que l'immeuble de Michel fait partie de ces habitations qui risquent littéralement de tomber sur la tête de leurs occupants et qui n'ont pas encore été répertoriées. C'est à peine croyable.
Et oui, on l'a appris à la lecture d'un courrier publié le 10 avril dernier par le journal Leur Avis. Dans ce courrier adressé à leur tutelle, des architectes et des ingénieurs de la direction de la prévention et de la gestion des risques de la ville de Marseille révèlent que 2600 signalements d'immeubles suspectés de péril imminent n'avaient pas été traités. 2600 immeubles qui risquent donc à tout moment de s'écrouler et de mettre en péril la vie des habitants. Florent Houdemont, le président régional de la Fondation Abbé Pierre, est effaré.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 100 000 Marseillais qui vivent dans des logements insalubres, des taudis, et donc beaucoup ont peur de sortir, mais ont peur de rester chez eux, de peur que le plafond leur tombe dessus. 18 mois après un drame de la rue d'Aubagne, où justement 8 personnes sont mortes, on en est encore là. Ça fait des années que la Fondation Abbé Pierre le dit, le mal logement, c'est un enjeu de santé publique. Maintenant qu'on a une épidémie qui nous frappe durement, on se rend compte à quel point, justement en termes de santé publique, c'est un vrai drame.
Alors par ailleurs, les associations, dont la Fondation Abbé Pierre, se félicitent de la prolongation de la trêve hivernale, mais voient poindre aussi d'autres difficultés liées à la crise sanitaire justement.
La trêve hivernale, ça évite les expulsions, mais ça évite pas les impayés. On a pas mal d'alertes sur des ménages qui, d'habitude, ne fréquentaient même pas l'aide alimentaire, qui aujourd'hui nous disent « j'ai faim ». Donc on se doute bien que si aujourd'hui elles peinent à remplir le frigo, elles peineront encore plus à payer leur loyer en fin de mois. Et donc on réclame un fonds national d'aide à la quittance pour aider les ménages les plus modestes à payer leur loyer.
Voilà, des associations qui attendent donc des mesures fortes de la part du gouvernement dans ce domaine.
2600 logements, hein, vous l'avez bien entendu, chiffre incroyable. Merci beaucoup Étienne Baudu du bureau RTL à Marseille.
RTL Matin, Yves Calvi.
En Ile-de-France, région la plus touchée par l'épidémie de coronavirus, des soignants ont été appelés en renfort de toute la France pour soutenir les équipes hospitalières. Ils sont des dizaines de milliers à avoir répondu à cet appel de solidarité. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour.
Vous avez pu rencontrer plusieurs infirmiers volontaires. Ils sont arrivés à Paris il y a à peine quelques jours.
Oui, Charlotte arrive tout juste de Bordeaux. À 33 ans, elle n'a pas hésité une seconde à se porter volontaire, car dans sa ville, la vague n'est pas arrivée et elle voulait se rendre utile.
Ça s'est fait en fait très rapidement. On m'a appelé le samedi pour partir le dimanche. Et donc j'ai dit oui, hein, je ne me suis pas posé de questions. Je suis prête à rester le temps qu'il faudra. On nous a expliqué que ça allait pas être simple et que les conditions de travail allaient être très compliquées sur le plan physique et psychologique aussi.
Le décor est planté, Charlotte sait à quoi s'attendre. Pareil pour Thomas qui arrive de Toulouse, où il est habituellement infirmier en psychiatrie. Tous les deux ont donc découvert Paris, les services de réanimation et surtout le Covid-19.
Ce qui m'a aussi impressionné, là, que j'ai vu à deux reprises, c'est justement voilà, ces patients qui vont plutôt bien et puis où tout d'un coup ça décompense. Il y a une intubation qui est obligatoire en espérant que l'intubation se fasse suffisamment vite pour ne pas perdre le patient. En gros, j'ai fait trois nuits. Sur les trois nuits, il y a un patient qu'on a accueilli. Une heure et demie plus tard, il était mort. Alors qu'il venait de chez lui. Ça fait réfléchir, ouais.
Je pense que une grosse particularité du Covid, c'est l'instabilité respiratoire des patients.
Ces témoignages sont très impressionnants. Comment sont pris en charge ces soignants ?
Alors tout est fait pour faciliter leur arrivée et leur intégration dans les différents services de région parisienne. Ils sont logés gratuitement, leur repas et leur taxi sont pris en charge et surtout ils ont dû apprendre les gestes de réanimation très vite. Certains ont pu avoir une formation accélérée de quelques jours, d'autres ont appris sur le terrain. C'est le cas d'Anthony qui arrive de Castres, diplômé il y a seulement un an en soins infirmiers. Il a dû se familiariser avec toutes les machines de réanimation et certains protocoles.
La réanimation, on ne court pas. Ça, c'est quelque chose. Au début, on me demandait, va vite chercher ça, tout ça. Moi, je courais. Et en fait, on m'a dit, non, si tu cours, on croit qu'il y a une urgence. Donc, on te suit. Je me suis retrouvé un moment à aller dans la réserve chercher une seringue. Et j'avais trois aides-soignants derrière moi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, t'as besoin de quelque chose. Et là, non, il faut juste une seringue. Ah, ne cours pas. Et là, voilà, je me suis fait reprendre une fois. Au moins, je le sais maintenant.
Malgré les découvertes, les déconvenues, la pression de la réanimation, Anthony tient à souligner la bienveillance de l'équipe qu'il accueille aujourd'hui à l'hôpital en Henri Mondor.
Tous les jours encore, je me dis, mais c'est une expérience, une aventure que je vis déjà humaine et après de partage. Même là, même dans leur fatigue, ils sont capables à nous transmettre leur savoir. Cette solidarité, maman, cette cohésion, je dirais même, qui est présente.
Et Anthony n'est pas le seul à ressentir cette solidarité entre les soignants. Tous ceux que j'ai rencontrés parlent avec émotion de l'entraide qui domine en ce moment dans les hôpitaux.
Alors justement, Émilie, cette solidarité ne doit pas cacher les difficultés auxquelles font face les soignants dans cette épidémie de coronavirus.
Oui, comme partout, le manque de matériel est un souci quotidien. Emma a 26 ans, elle est de Montpellier et vient de commencer à l'hôpital Saint-Louis.
On n'a pas forcément les surblouses adaptées parce qu'ils sont en manque de surblouses. Oui. Voilà, quand on l'enlève, il ne faut pas qu'on la déchire parce qu'il y a des blouses qu'ils ont fait dans un tissu particulier et qui sont amenées à être lavées pour qu'on puisse les réutiliser. Alors que normalement, une blouse, c'est usage unique. On est amené à avoir des patients avec des blouses normalement que les aides-soignants mettent pour faire des toilettes, donc qui protègent mais sans non plus être le top de la protection.
Il y a aussi pour certains la peur de tomber malade et puis cette incertitude concernant la durée de l'épidémie. Elisabeth est depuis 3 semaines à l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis, un des départements les plus touchés de France, et elle ne voit pas encore d'amélioration.
J'ai vu des places se libérer mais qui se reprennent très vite. C'est vrai qu'on a encore les respirateurs, les dosiflots qui aident à respirer les patients. Après, c'est vrai que j'ai vu quelques lits vides, même en réa, mais je ne la vois pas à la sortie pour l'instant, non. J'espère qu'elle arrive parce que c'est vrai que les équipes sont épuisées.
Elisabeth devra bientôt rentrer chez elle dans le Var pour retrouver sa famille. Emma, Charlotte, Anthony et Thomas, eux, ne savent pas combien de temps ils vont rester à Paris, mais ils se disent prêts à travailler ici le temps qu'il faudra.
Eh bien, c'est très clair. On les remercie dans tous les cas. Reportage aux côtés donc des soignants qui se mobilisent chaque jour pour sauver des vies. Merci beaucoup, Émilie Beaujard.